8h25, 418-971-1021. Merci d'être là. Bon mardi. Mardi sous le soleil. On nous annonce un 25-26 comme température ressentie aujourd'hui. Donc, ce sera très confortable ce soir. Ciel dégagé. Sur la route, ça brasse et ça brasse pas pire. Il y a eu des accidents aussi, Max.
Ouais, si on commence dans le secteur des ponts, on est habitué que ce soit problématique. Ça ne fait pas exception ce matin encore à 8h26. On pourrait espérer que l'heure de pointe soit derrière. C'est vraiment pas le cas. Sur la rive nord, sur la 40 Est entre Duplessis et un peu passé Henri IV, Rosteau Rouge, capitale Est de l'entrée par Henri IV jusqu'à l'approche de Robert Bourassa. C'est quand même bien jamé aussi, tout comme sur capitale Ouest entre Seigneurial et Laurentienne. Sur Laurentienne Sud, particulièrement tough ce matin en direction de rue de la Fonde. Je vous dirais que tranquillement pas vite, ça se dissipe, fait que bonne nouvelle. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, ben, comme d'habitude, c'est pas facile. Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau Ouest, c'est au ralenti. Et de Shannon vers l'entrée de la base militaire. D'habitude, c'est l'inverse, le problème. Ben là, à matin, c'est pas ça. Fait que il y a des problématiques. Vous mentionnez, tant qu'à être sur les routes, là, je vous parlais d'un accident du côté de la route Grand Capsa entre Pont-Rouge et Saint-Augustin-des-Morts qui a causé fermeture de la route. Ben, on nous dit qu'il y a un motocycliste là, qui est dans un état critique présentement. Fait qu'on va suivre ça. Le SPVQ qui est sur place va enquêter pour en savoir plus. L'automobiliste en passant qui a aussi été transporté à l'hôpital pour un choc nerveux.
Un des plus grands acteurs d'Hollywood est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est ce qui a été confirmé. 89 ans, l'acteur Robert Redford. Donc 89 ans, ça veut dire qu'il est né en 1936. Ouais, 1936. C'est un gars qui a marqué sa génération. Tu ne dois pas l'avoir connu ben étant jeune, Max, à moins que tu écoutes des vieux
ouais,
films.
Pas vraiment.
Mais c'est un gars qui a roulé sa bosse pas mal, très fort dans les années 60, années 70. Moi, je l'ai connu un peu plus tard, bien entendu, en 1990, avec le film qui impliquait, comment s'appelait l'ancienne femme de Bruce Willis, Demi Moore, Proposition indécente. 1993, tu te rappelles-tu de ça?
Ben oui, je m'en rappelle.
Un couple marié ouais. Qui était en amour, avait des dettes, et là, tout d'un coup, il y a un milliardaire qui arrive et offre, c'était-tu $1 million?
$1 million.
Pour passer la nuit avec sa femme. Et là, ben, tu comprends que le film est un peu basé là-dessus. Je te raconterai pas le punch parce que je te ferais certain que tu vas écouter ce film-là avec Robert Redford tantôt, mais que tu arrives à la maison. Mais c'est une triste nouvelle. 89 ans, quand même une belle vie puis une super de belle carrière.
Vraiment.
Il est malheureusement décédé. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, vous avez des choses à nous dire. C'est 418-971-1021, c'est par texto. On parle de travailleurs temporaires, les manufacturiers qui anticipent un automne assez catastrophique dans le dossier des travailleurs temporaires. C'est le fédéral qui avait abaissé les taux de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire. On était à 20 % là maintenant, le seuil a été abaissé à 10 % au Québec pour le secteur manufacturier. C'est une catastrophe. Et on a le plaisir d'en jaser avec la présidente directrice générale de manufacturiers et exportateurs du Québec, Mme Julie White. Salut Julie, très content de te jaser ce matin.
Bien, bonjour à toute l'équipe.
Le topo
d'être avec vous aussi.
Merci. Le topo actuel ressemble à quoi actuellement avec les entreprises?
Dans le fond, c'est un dossier qui est complexe, mais essentiellement là, à cause de l'application des règles qui ont été annoncées l'an dernier par le fédéral. Il y a plein de permis de travail qui se terminent à l'automne. Donc, on commence à avoir des travailleurs qui quittent. Qu'est-ce que ça veut dire, des travailleurs qui quittent pour nos entreprises, pour nos usines? Bien, des corps de travail qui ferment, des corps de travail de soir notamment, de la production qui est au ralenti, des opportunités de développement qui sont pas capables d'être prises. Il faut voir que dans une usine, là, si on enlève, c'est une chaîne hein, de production, donc du début à la fin. Donc, si on enlève des maillons dans le milieu de la chaîne, mais c'est l'ensemble de la chaîne, l'ensemble des travailleurs qui sont affectés. Donc, c'est clair que pour nous, c'est une situation qui est assez catastrophique dans les régions. Hein. On parle beaucoup, là, évidemment, de Chaudière-Appalaches, de la Capitale Nationale, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent notamment. C'est des régions qui sont très affectées parce que le taux de chômage est bas, puis il n'y en a tout simplement pas de travailleurs québécois disponibles pour venir dans les usines.
Ouais, quand on parle de travailleurs à bas salaire, là, on peut penser que bon, il y a des Québécois qui peuvent exploiter ces gens-là, mais bas salaire, ça représente quoi? C'est genre de 30, en bas de 35 $ de l'heure?
Oui, exactement. Puis je pense qu'il faut être clair, là. Il y a des histoires qui se sont passées au Québec qui n'étaient pas tout à fait belles, mais c'était pas dans le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier, là, le salaire moyen, c'est 33 $ de l'heure. Donc, on parle quand même de bonnes conditions en général. Le barème que le fédéral utilise pour déterminer le niveau de bas salaire, c'est à peu près 34,70, si je me souviens bien.
Ouais.
Donc, on ne parle pas de salaire minimum, on ne parle pas de salaire en bas de 20 $ de l'heure, pas du tout, là. On parle de salaire avec des conditions intéressantes qui, ça, sont avant les primes, avant les avantages sociaux, donc ouais. Juste le salaire de base, là.
Puis, tu sais, je comprends que quelqu'un qui gagne 35 $ de l'heure puis qui reste à Toronto, il est sous le seuil de la pauvreté, mais quelqu'un qui gagne 35 $ de l'heure à Saint-Robert-Bellarmé en Beauce, lui, il est considéré comme une personne ayant un très, très bon revenu, là.
Oui, puis c'est pour ça que nous, ce qu'on demande au fédéral, là, on demande au fédéral de dire, de mettre en place une clause grand-père là, pour que les travailleurs qui sont ici puissent être renouvelés. Là. Ils sont déjà logés, leurs enfants vont déjà à l'école. C'est pas un poids supplémentaire pour l'économie. Puis ils travaillent déjà dans les usines, sont formés, sont impliqués. Donc, tu sais, permettez-leur de rester. Maintenant, après ça, il faut revoir ce seuil-là. Le 35 $ de l'heure, ça s'applique peut-être au centre-ville de Montréal, mais il faut voir un peu régionalement comment c'est faisable. On peut pas non plus déstructurer toutes des échelles salariales dans les usines. Tu sais, me semble qu'un peu de régionalisation en prenant les salaires moyens par MRC, ça serait une bien meilleure façon d'analyser le tout, puis de permettre d'avoir de la main-d'œuvre. Le point de départ, là, c'est pas que les entreprises, ils veulent donc bien aller chercher des gens à l'extérieur. C'est qu'ils en ont pas de gens au Québec pour travailler. Ils prendraient les gens au Québec qui voudraient travailler dans les usines en premier. C'est bien moins compliqué. On n'a pas allé faire des démarches avec l'immigration, l'émission internationale, l'intégration, la francisation. Ça, c'est beaucoup pour les entreprises, mais ils n'ont pas le choix en ce moment. Donc, il faut vraiment essayer de les soutenir là, le mieux possible.
Julie White, est-ce que le gouvernement fédéral fait des approches avec des gens comme toi? Toi, tu es présidente directrice générale de manufacturiers et exportateurs du Québec. Tu parles des dossiers d'immigration, tu parles régulièrement avec des entreprises. Est-ce que le gouvernement t'appelle pour savoir, hey Julie, t'es en train de regarder quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de? On pourrait-tu changer les choses? On pourrait-tu améliorer certains trucs? Est-ce qu'ils vous consultent ou ça reste en haut puis ils prennent des décisions qui mettent dans l'embarras beaucoup d'entreprises à la grandeur du Canada?
Je dirais que l'année dernière, quand ils ont annoncé ces mesures-là, ils nous ont pas consultés. Ils n'ont consulté personne. C'est tombé là comme ça un matin par communiqué de presse qu'il y avait des changements. Donc, aucune prévisibilité pour les entreprises, aucune discussion. En ce moment, ceci dit, on est en discussion constante avec le gouvernement fédéral. Je vous dirais que je pense qu'ils me trouvent même un petit peu tannante là, ces jours-ci pour essayer de faire avancer la situation. Ils nous écoutent. On a une bonne écoute des députés québécois, on a une bonne écoute des ministres québécois, mais ça reste que c'est des décisions qu'il faut aussi qu'ils soient prises nationalement. Donc, d'où un peu la difficulté qu'on est en ce moment. Puis c'est pour ça qu'on est sorti cette semaine-là. Faut qu'on arrête là de niaiser puis de discuter. Là, faut qu'il y ait une décision qui soit prise, puis il faut qu'on avance. On a des entreprises qui sont en train de perdre des travailleurs. Mais le canal est là. Mais il y a une différence entre écouter puis entendre. On espère qu'ils vont nous écouter. On est vraiment dans un secteur, le manufacturier, qui est particulier, avec des conditions de travail particulières, avec une importance économique qui est différente, puis avec des jobs qui nécessitent des formations. Là. Tu sais, c'est des jobs que pas n'importe qui peut prendre comme ça non plus. Donc, j'espère qu'ils vont être à l'écoute. Les tarifs nous ont aidé à mettre un peu de lumière là, sur notre situation. Maintenant, il faut que les bottines suivent les babines là, du côté d'Ottawa.
Julie, je t'entends dire, on est beaucoup dans la discussion, on écoute, mais on n'entend pas. Est-ce que tu as la ferme impression que depuis que Donald Trump a émis des tarifs au Canada, on parle de grands principes de diversification et d'économie à l'échelle canadienne, mais qu'on n'a pas encore agi?
Bien, écoutez, depuis les tarifs, il y a quand même eu des choses intéressantes qui se sont passées à différents niveaux. Maintenant, tu sais, dans les dernières années, le secteur manufacturier, c'était pas le focus des gouvernements. On parle beaucoup de TI, d'intelligence artificielle, qui sont super importants aussi comme domaine, en passant. Là, c'est pas pour les dénigrer. Là, je pense que on a remis un peu le focus sur l'industrie. L'industrie, là, c'est 500 000 jobs au Québec. Là, c'est le secteur qui est le plus fort en termes de PIB dans l'économie du Québec. Donc, on n'a pas le choix de prêter attention à ça. Puis là, on s'en rend compte. C'est quand on parle de défense, ben, on parle de stratégie industrielle en défense, comment on est capable de fabriquer là-dedans. Donc, oui, il y a une attention particulière qui est donnée, mais le dossier de l'immigration demeure une patate chaude entre Québec et Ottawa, une espèce de game politique en ce moment. On espère que là, on puisse arrêter d'en parler de façon politique puis qu'on regarde des faits, là. On est bien conscient chez les manufacturiers exportateurs du Québec, puis les membres le sont, là, qu'on peut pas ouvrir les vannes sans arrêt, puis qu'il faut considérer le poids de l'immigration sur les services publics. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder les secteurs de façon différenciée? Est-ce qu'on est capable de s'ajuster en fonction des régions aussi, qu'on n'ait pas des normes partout au Québec à cause qu'à Montréal, la situation est différente? Ben, c'est là-dedans qu'on discute en ce moment. On veut le faire de façon raisonnable, puis que ça aille juste les impacts positifs sur l'économie. Donc, oui, il y a de l'ouverture, oui, il y a plus d'attention, mais on va le voir, là. On va le voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On espère que le gouvernement Carney se dépêche, là. On avait un premier ministre économique, on veut une décision économique.
Ouais. Sens-tu vraiment également un désir de diminuer votre fiscalité, diminuer la bureaucratie, ou si on est encore sur le statu quo?
Je sens le désir. On verra au moyen. J'ai eu des conversations avec M. Lightbound, notamment, sur le sujet, qui travaille beaucoup là-dessus. Et je pense qu'il y a une volonté. Maintenant, à Québec aussi, on entend parler de ça, là, on va se le dire. Mais c'est toujours difficile. La question des règles environnementales, notamment, est importante. Pas qu'on veut. On veut être responsable de façon environnementale, mais il y a des choses, il y a plein de façons de faire tout plus rapidement que ce qu'on fait dans les deux paliers de gouvernement. Là, on est là-dessus, c'est la nouvelle attention, et tant mieux, mais j'ai bien hâte de voir. Au Québec, on est dans une situation financière difficile, 12 milliards de déficit.
Oui, au Canada aussi, là, on annonce un 100 milliards peut-être de déficit.
Oui, exactement, donc il faut le voir aussi comme c'est. Là. Le gouvernement a besoin de revenus, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Maintenant, moi j'ai espoir que le gouvernement s'est rendu compte de l'importance de notre secteur pour l'économie. Je le vois, ça, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques mois autant. Maintenant, ça va être ma job puis la job de mes membres d'être là puis de continuer à pousser dans cette direction-là pour les prochaines semaines.
Pour faire venir un travailleur étranger, bon, ça prend certaines démarches, là, ça peut être parfois complexe de ce qu'on a compris. Pourquoi il y a un coût à ça? Pourquoi faire venir un travailleur étranger, ça coûte 15 000 $? C'est qui prend cet argent-là? Ça va où?
C'est les entreprises qui payent pour venir faire venir les travailleurs étrangers. Donc, quand on dit que c'est à peu près 15 000 $ en moyenne, là, c'est les dépenses que les entreprises font. Par exemple, aller à l'international, aller faire des missions de recrutement. Après ça, faire venir les travailleurs, payer leur déplacement, les loger. Hein, parce que, tu sais, on parle souvent de logement, là, mais les entreprises, généralement, du moins au début, vont loger les travailleurs étrangers temporaires. Ouais. Souvent, il y a de la mise à jour de formation. Même un soudeur qui pratique dans un type d'usine doit peut-être s'adapter à aux nouveaux équipements qu'ils ont ici, donc il y a de la formation. Puis il y a évidemment la francisation aussi, vu qu'on est au Québec. Donc, tu sais, si on parle d'un 15 000 $ par travailleur, là, c'est pas parce que c'est la solution facile là, que les entreprises le font. Là. Elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix, mais c'est déboursé par les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ces travailleurs-là, qui sont déjà ici, puissent rester ici, parce que c'est des investissements que les entreprises ont déjà faits au Québec.
OK. Puis, ton degré de confiance par rapport au gouvernement fédéral et provincial pour régler ce dossier-là, puis que ce soit à l'avantage des manufacturiers?
Bon, pour le moment, le Québec est de notre côté sur la demande de clause grand-père, donc on est content de ça. Le Québec s'en est rendu compte. Ottawa, on avait des bonnes discussions, mais là, ça finit pas par... C'est là, c'est pour ça qu'on sort, là, pour leur mettre un tour de pression. Mon feeling, c'est qu'ils vont se rendre compte, qu'ils vont aller de l'avant avec la clause grand-père, mais il faut les pousser un peu. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas des solutions faciles. Maintenant, après ça, on pourra avoir une discussion plus large là, sur l'immigration, puis prendre le temps de regarder ça comme il faut. Mais il faut au moins arrêter l'hémorragie des travailleurs. Là. C'est des investissements qui ont été faits au Québec. C'est des gens qui travaillent dans nos usines. Pourquoi on les perdrait? Là? Ça fait aucun sens là, dans une logique économique. Là.
Mais une chose est sûre, Julie, c'est qu'ils t'ont d'en face depuis ton arrivée à ce poste-là, parce que je te vois passer partout sur toutes les plateformes pour parler de ce dossier-là. Fait qu'ils peuvent pas dire qu'ils t'ont pas vu passer.
Ah non, ça c'est sûr. Ils me connaissent bien, puis on n'a pas le choix de faire les choses correctement aussi. Quand on est rendu dans les médias, là, c'est parce qu'il faut qu'on pousse la situation. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive à quelque chose. J'ai pas le choix. Hein? On en a besoin pour nos entreprises aussi. Mais on continue le travail, ça c'est sûr.
Un gros merci, Julie.
Merci.
Au revoir. Bye. Julie White, qui est présidente, directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. On parlait d'immigration temporaire. Des travailleurs qui sont chez nous puis qui sont bien ancrés dans les entreprises. On voudrait garder. On veut pas
qu'ils partent.
Tu sais, t'en as 20, puis là, finalement, du jour au lendemain, tu te ramasses avec 10 parce que le gouvernement a pris cette décision-là. Ces gens-là sont un plus pour notre société. Puis ils paient des impôts, hein?
Exactement. Paient des impôts, paient des taxes, paient un loyer, s'achètent une maison. Donc, c'est des gens qui s'intègrent à 100% à notre communauté. Et là, non seulement il y en a qui partent, moi, je suis plus capable d'en faire rentrer non plus. Donc, si on veut gagner en expansion du côté des entreprises, attaquer le marché mondial, diversifier l'économie comme le gouvernement le demande, ben avec cette règle-là de l'immigration, c'est impossible.
Donc, auparavant, les entreprises ne pouvaient embaucher que 20 % des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, puis ce seuil a été abaissé à 10 %. Puis quand on parle de travailleurs étrangers à bas salaire, là, c'est en dessous de 35 $ donc précisément 34,62 $
Moi, je suis un travailleur local à bas salaire.
C'est vrai? Mais voyons donc! Qu'est-ce qui se passe, Max?
Il y a bien juste toi qui a négocié des gros salaires en s'en venant le matin.
Hey, on va organiser une collecte de fonds pour toi. Tu veux-tu?
Un téléthon, la rouche.
Ouais. M'aide à manger.
On va faire un combat de boxe, moi puis Jeff, là, puis on va faire venir les gens là, pour voir le combat de boxe. Puis tous les fonds vont être versés au fonds Maxime Larouche, qui visiblement dépense son argent dans tous les festivals possibles.
Exact.
Au Québec.
Les shows.
Ouais, exact.
Je mange pas beaucoup, mais j'ai du fun.
Juste à dire, moi, je suis un père de famille, là, puis j'ai pas les moyens d'aller dans des shows comme toi, tu as les moyens.
Impossible.
Ouais, mais c'est toi qui as fait des enfants, là.
J'ai pas de... j'ai rien à voir là-dedans, là. Ça a pris 30 secondes.
Ouais.
Mais j'ai rien à voir avec les gilets que tu mets. T'as tout le temps des beaux gilets propres, dernier cri.
Ça, oui, ouais, moi, une carte de mode.
C'est ça. Vraiment, on n'a pas ton budget. Moi puis Jeff, on n'a pas ton budget. Ça,
mais vous avez des kids.
8:42, ouais. On fait une courte pause. Est-ce que sur la route, c'est réglé, Max?
Non, il y a encore des points chauds, bien malheureusement. Entre autres, pour l'accès aux deux ponts direction nord, c'est encore au rouge foncé. La 40 Est entre Duplessis et Henri IV, encore au rouge. Capitale Ouest entre Beau-Royal et à peu près la première avenue, c'est encore pas mal au ralenti. Laurentienne Sud, un petit quelque chose encore, hauteur rue de la Faune. Mais tranquillement, pas vite, ça s'améliore, mais ça reste assez tough.
Courte pause, on revient. Boulevard 102.1.